Comment était-on un de ces amateurs éclairés qui ont sorti de leur grenier un logiciel commercial abouti ? Et comment pouvait-on le comparer à aujourd'hui ? Avec son frère Olivier, il fut l'un de ces artisans vidéoludiques des années 80, ceux qui concevaient les jeux vidéo sur les mêmes ordinateurs qui allaient les faire tourner et qui eurent leur succès. Nous avons l'honneur de recevoir Didier Guillon, co-créateur des jeux Le 5e Axe et Sapiens sur MO5, co-fondateur de la société d'édition Myriad, actuellement responsable interface et ergonomie de logiciels musicaux, producteur de sons incompréhensibles jadis diffusés sur FMR. CPU, carré et petit utile. Et on parlera justement de cet exploit tout à l'heure. Monsieur Guillon, quel fut votre premier ordinateur ?
Un VIC-20. Un VIC-20 en 1982.
De Commodore, donc.
Commodore VIC-20, ouais. 3580 octets de libre à l'allumage du basique. Voilà, et il fallait faire avec ça.
Et je crois que ça avait même pas 32 caractères de large, un truc comme ça.
Ouais. Oh. Pas beaucoup, non. C'était assez léger, on n'avait aucune documentation, on a travaillé pendant environ un mois sans support magnétique, donc chaque fois on était obligé de retaper le programme entier, et le premier gros achat, ça a été un lecteur de cassette, donc pour pouvoir enregistrer nos programmes en basique.
Voilà. Et donc, vous étiez deux frères devant, enfin vous êtes toujours deux frères, mais deux frères devant une seule machine, c'était comment ? Chacun son créneau horaire ou le premier enfermait l'autre dans les toilettes ?
C'était chacun son créneau horaire en fait. On alternait selon. À l'époque j'étais étudiant et lui il était lycéen, donc on n'avait pas les mêmes horaires et on se partageait l'ordinateur en fait. Mais beaucoup de travail se faisait sur papier. On écrivait beaucoup, les listings on les faisait d'abord sur papier avec un crayon et après on le tapait.
Et vous échangez les astuces que vous avez trouvées,
tout
comme ça ?
Oui, dès le départ, mon frère était plus axé sur tout ce qui est technique, optimisation de code, etc. Moi, ça m'intéressait moins. Moi, c'était plus le scénario, le graphisme, la musique, etc.
D'accord. Et comment vous est venue l'idée de faire de l'argent avec un programme ? C'était saugrenu ou il y avait une vraie occasion ?
Sincèrement, on ne le faisait pas pour gagner de l'argent au départ. Au départ, c'était pour dominer la machine, en fait. On avait une espèce de boîte avec des touches sur le bureau, et on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Et on sentait qu'on pouvait faire des choses vraiment super avec, mais il fallait tout maîtriser. Il fallait commencer par apprendre le basique, puis écrire un assembleur en basique, puis un assembleur en assembleur, et commencer à travailler, en fait.
Waouh ! Comment on distribue les jeux à ce moment-là ? C'est cassette entre copains ou c'est par courrier ?
Déjà, on a très peu de copains qui ont des ordinateurs. C'était quand même assez rare, ouais. Parce que c'était assez cher à l'époque. Oui, on passait tout par cassette. Des cassettes, en général, des Maxwell Chrome de bonne qualité, 60 minutes. Et parce qu'il y avait des pertes de signal en fait selon la cassette et on pouvait bousiller un programme. Et oui, on se le passait par cassette. Ou en fait, le plus gros moyen de distribution, c'était des listings diffusés dans la presse, comme l'ordinateur individuel. On pouvait diffuser des listings, on tapait le listing et on avait le programme chez soi en fait.
Hebdo-Giciel, tous ces magazines qui ont existé. Science et Vie avait des pages, deux, trois pages là-dessus.
Science et Vie, c'était plutôt algorithme, il n'y avait pas tellement de code, en fait.
Il y en a eu, mais c'était plutôt Amstrad, d'ailleurs, bizarrement.
Ouais.
Ce qui me laisse une idée sur qui devait écrire les programmes à l'époque. On rappelle que vos jeux par lesquels, justement, on va parler aujourd'hui, donc le 5e Axe et Sapiens, c'était d'abord conçu sur les ordinateurs Thomson. Vous êtes acheté un Thomson vraiment dans l'idée de passer commercialement dessus ou
là, il y avait l'intention commerciale parce que c'est vraiment pas pour les qualités intrinsèques de la machine qu'on achetait un MO5, mais c'était vraiment parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucun logiciel un peu sympa sur un MO5 et donc on avait une opportunité de faire quelque chose qui sorte un peu du lot. Voilà.
Et justement, du coup, moi j'ai été assez surpris, c'est que vous dites, bon, c'est pas pour les qualités intrinsèques de la machine, mais elle se montre quand même plutôt véloce. Et le 5e Axe, c'est un jeu d'arcade, plus ou moins. J'ai été surpris de la qualité, de la fluidité des actions qu'il y avait dessus.
Bon, déjà, le point intéressant sur le MO5, c'était un 6809. Donc c'était un Motorola, on aimait bien les Motorola. Parce qu'on venait du 6502, donc le 6509 était un peu plus élaboré. Mais il n'y avait vraiment rien sur le MO5. Il n'y avait pas de circuit vidéo, il n'y avait pas de circuit son, il y avait un clavier quasiment inutilisable. C'était, non, c'était pas une super machine. Non.
Et à l'époque, bon, on n'est pas encore à l'Atari ST et l'Amiga qui vont arriver en 85,
bien
d'abord
après,
aux États-Unis.
Bien après.
Donc à l'époque, il n'y avait pas de suite d'édition graphique. Comment on faisait le design à l'époque ?
On prenait une feuille quadrillée, on dessinait en noircissant les petites cases, et après on comptait les bits de droite à gauche, 1, 2, 4, 8, on faisait la somme et on rentrait la somme. Voilà.
Travail de Benedict, hein, littéralement. Vous avez donc toujours ces cahiers
ou... J'en ai gardé quelques-uns, oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Et quand vous les regardez, vous dites comment j'ai fait
Oui, c'était... on ne se posait pas trop la question, dans le sens où c'était comme ça qu'il n'y avait pas d'autre solution. Voilà, c'était, y avait quand même eu le Commodore 64 avant l'Amiga, donc c'était une bonne transition.
Oui.
Je pense sincèrement que le Commodore 64 est la plus belle machine qui a été construite pour l'époque, en fait. Et il y a encore des codeurs sur Commodore 64 qui font des démos magnifiques sur Commodore 64.
Ouais. Oui,
c'est la première machine à lancer les sprites. Alors 64K de RAM, des sprites, circuits sonores, le site qui était magnifique. Non, vraiment, c'était une très, très, très belle machine.
Ça, on va en parler en long, en large, en travers. Et elle a eu une histoire de conception, d'ailleurs, qui était assez chaotique. Les bruitages, comment vous avez conçu, en fait, ces bruitages sur Thomson, où, en fait, je crois qu'il y avait juste... on pouvait juste régler une fréquence et bip ou pas bip, quoi.
C'était, en fait, pour la partie musicale, c'était un principe qu'on appelait la modulation delta, qui avait été mise au point sur Apple II, qui permettait, lorsqu'on avait un seul bit, d'avoir des valeurs intermédiaires en bougeant très très vite avec une fréquence. Donc on envoyait une fréquence assez élevée et on pouvait moduler sur cette fréquence parce qu'il y avait un seul bit on-off sur le haut-parleur, en fait. Mmh. Et ça permettait de faire plusieurs voix.
Et donc, en fait, de prendre la petite partie de la sinusoïde qui permettait de...
On arrivait à faire bouger la membrane du haut-parleur avant qu'elle soit complètement dans un sens ou dans l'autre, en fait. Donc, on arrivait à avoir des intermédiaires. Mais ça prenait 100% de CPU, donc c'était pas question de faire ça pendant un jeu, par exemple.
Oui, j'imagine beaucoup. Les sauvegardes des versions, vous faisiez chaque version de votre code au fur et à mesure que vous avancez Le Git était sur cassette à l'époque ?
Sur cassette, oui. On avait un petit cahier, on marquait telle version, de telle position de la cassette, telle position, et on pouvait tourner.
Ça devait coûter cher, à force, ça devait être compliqué.
En cassette, oui, il fallait être organisé. Il fallait être organisé.
Et donc, vous étiez deux frères à travailler dessus. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous auriez aimé déléguer à une troisième personne pour vous dire, alors, c'est trop compliqué ou bien on ne sait
pas
faire.
Très vite délégué la partie composition musicale à un ami qui s'appelle Gilles Soulet, qui a fait la plupart de nos musiques, en fait, en particulier celle de Sapiens et certaines musiques du 5e axe aussi. Donc lui, il écrivait les musiques sur un logiciel qu'on avait écrit qui s'appelait Camuse, et donc il est rentré, il les mettait au point, on les insérait dans le logiciel, en fait. Tout le reste, on le faisait, en fait, jusqu'à la protection. Système de protection, on le gérait nous-mêmes.
Donc ces deux jeux, d'abord il y a le 5e axe, je crois, que vous avez fait en premier. Mm-hmm. Donc ça, c'est un jeu de plateforme arcade, si je puis dire.
C'est ça. Enfin, avant le 5e axe, on avait fait d'autres logiciels, par exemple Vega sur Commodore 64, qui n'ont pas très bien marché. Et le 5e axe a été le premier logiciel où ça a vraiment marché, en fait.
Voilà. On parle le fait que justement il y avait peu de catalogues disponibles sur.
Il y avait quasiment rien. Ouais.
Et donc il y a Sapiens, qui est un jeu d'aventure qui se passe à l'époque préhistorique.
Voilà.
Et là, pour le coup, vous êtes énormément documenté sur l'histoire ou vous êtes parti comme ça
la période préhistorique m'avait toujours intéressé, donc j'avais déjà une certaine connaissance de la période, mais surtout ce qu'on voulait, ce qu'on appellerait maintenant un open world, c'est-à-dire un monde où on puisse faire ce que l'on veut. Bien sûr, on a réduit nos prétentions à la capacité des machines, mais je vois certains jeux qui existent maintenant, c'est exactement ça qu'on aurait voulu faire. Le dernier jeu qui est sorti là, je ne sais plus comment il s'appelle,
Red Dead.
Voilà. Les parties de chasse, par exemple, de Red Dead, c'est ça qu'on
voit. Red Dead Redemption,
voilà. C'est vraiment fabuleux. Quoi.
Et en fait, vous aviez une astuce quoi, pour faire un open world qui soit relativement cohérent.
Oui, c'est-à-dire on basait chaque point de la carte sur un nombre pseudo-aléatoire, ce qui permettait, quand on se retrouvait à un endroit, de retrouver exactement les mêmes objets, les mêmes personnages.
Donc il y avait une cohérence dans le monde. Il y avait du procédural derrière et tout ça.
Oui, mais il y avait quand même aussi une petite... pas intelligence, mais disons que les personnages pouvaient se déplacer aussi, et les animaux aussi. Donc il y avait une logique. Il y avait une logique sur Sapiens.
Et du coup, comment vous faisiez les tests? C'était une bande d'amis sur lesquels vous étiez relativement sûr, ou c'était des bécanes qui étaient dans votre lieu de travail?
Non, on faisait nos propres tests, mais parfois on passait des cassettes. Quand c'était bien abouti, on n'aimait pas trop présenter quelque chose de non abouti pour un test, parce que c'est difficile de juger quelque chose qui n'est pas fini. Donc en général, les tests étaient vraiment des tests finaux plus de fiabilité, de rechercher les bugs ou chercher les crashs possibles, en fait.
Et donc, vous avez fait d'autres logiciels avant, donc sur Commodore 64 et aussi sur VIC-20. Oui. Et vous m'avez dit, en préparant cette émission, que vous avez participé à une émission en 82 sur FMR.
Ouais, de mémoire.
Donc, si
ouais.
c'est bien 82, à l'époque, c'était au-dessus du bar, le Regalty, avenue de Grande-Bretagne.
Je sais que les gens fumaient en dessous et que la clim nous renvoyait la cigarette.
Maintenant, ils fument dans le studio, c'est guère mieux. et donc, vous étiez juste après Vomi, je vous rassure. Vomi est toujours à l'antenne et il va bientôt faire ses 30 ans d'antenne. Et je crois il fait l'expo, d'ailleurs. Eugène, c'est Vomi, non, qui expose.
C'est tout le mois, là. Ça dure tout le mois, mais.
Tout le mois, novembre-décembre, si je me trompe.
C'est novembre-décembre, c'est pas celui d'octobre, ça vient pas de passer, non.
Non, c'est celui qui a annoncé.
De toute façon, c'est marqué sur le site de Radio Éphémère.
Voilà, www.radio-éphémère.net. Et ce sont ses enfants, d'ailleurs, leurs enfants qui prennent la suite maintenant sur l'émission de Punk, parce qu'ils trouvent papa trop conservateur.
Et qui ont mis la colle sur les affiches pour les faire tenir sur le mur de Radio Éphémère. Il fait travailler ses enfants, en fait, pour exposer.
Voilà. Et donc, vous étiez après. Vous avez fait une émission. Alors, on n'a pas retrouvé les archives, mais vous avez pu retrouver justement un extrait de cette émission. Et on vous en remercie. On passe de suite un extrait. Ça change pas beaucoup de certaines émissions, je dirais. Il y en a qui hurlent. Donc en fait, c'était quoi? C'était les cassettes en question.
À part que ça durait 10 minutes quand même. Donc quelqu'un qui se branchait sur FMR à cette heure-là, il devait vraiment se poser des questions soit sur son audition, soit sur la.
Ou à la fin, il avait plus d'audition. En fait.
Voilà, oui, ça, ouais. Si c'était au casque, effectivement, sous le lit, en se disant, ouais, je vais écouter Rask.
Je vais mettre bien à fond.
Oui. Ouais. Comme quoi, on a l'informatique sur FMR pour que ça soit inaudible. Ça date pas d'hier. On peut dire que ça remonte à la rapide.
En fait, le présentateur disait, bon, voilà, vous allez télécharger un programme ProRig Atmos ou pour CP64 ou VIC-20. C'est un programme qui fait ça et ça. Prépare-vous à enregistrer. Prêt. Allez, on l'envoie. Clac. Les personnes enregistrées chez lui. Et il avait sa cassette. Il pouvait le mettre à sur son ordinateur.
Et ça marchait bien ou...
Non.
Non, pas du tout.
Non. Ça marchait pas, non, parce que les bandes étaient trop. Enfin,
il y avait trop de distorsion.
Pas assez trop de distorsion.
Ouais. Bon. Et puis à l'époque, la FM était moins policée que maintenant. C'était encore des sauvages, donc ça se brouille un peu. Quoi.
C'était l'intention qui comptait. Quoi.
Et vous écoutez donc CPU, l'émission Carré Petit Utile sur Radio Éphémère. Et nous sommes avec Didier Guillon, qui est créateur de jeux sur Thomson MO5. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque. Et c'est justement l'époque qui nous intéresse. Enfin, maintenant, il conçoit des logiciels musicaux. On en parlera peut-être en cours d'émission. Monsieur Guillon, Didier, je me permets. Bon, bah, d'accord. Qu'est-ce qui définissait en fait la fin du développement? Le manque de place sur le support, l'épuisement de l'équipe ou le scénario du jeu tel qu'il était conçu?
Noël.
Quatrième réponse, forcément, la date de mise en rayon. Quoi.
Il fallait que le jeu soit terminé pour septembre, de manière à ce qu'il puisse être en rayon pour novembre-décembre, en fait.
D'accord.
Voilà, c'était les contraintes de temps. Donc, quand on commençait le développement en janvier, on avait 6 mois. Quand on commençait en juin, on n'avait plus que 3 mois. C'était ça.
Ah ouais, donc il valait mieux avoir l'idée le plus vite possible.
Quoi. Oui, tout à fait. Juste après Noël, en fait.
Comment trouvait-on alors son éditeur? Comment vous l'avez trouvé?
On envoyait des cassettes et on attendait les retours.
Et à l'époque, il y avait un nombre incroyable d'éditeurs. Oui, il y avait R, Lauriciel,
Infogrames.
Infogrames, ils existent encore.
No Man's Land, voilà.
Est-ce qu'il y a eu des frictions éditoriales avec ces éditeurs ?
Oui. En particulier dans Sapiens, on avait essayé de faire avec Sapiens un jeu intelligent, dans le sens qu'ils respectaient ce que l'on savait à l'époque sur l'homme de Néandertal. Et ils avaient trouvé le moyen de nous mettre un diplodocus. Sur la jaquette.
Oui, j'ai beaucoup ri quand je l'ai vu. J'imagine que ça...
Ah non, on était assez furax, mais bon, ils ont dit que c'était vendeur, donc ils n'ont pas voulu toucher à ça.
Voilà. Ah, c'était pas le fait que la production était déjà lancée, c'était ça ou rien.
Non, c'est ça. Non, mais ils n'ont pas voulu revenir en arrière. Si, après, on a une sorte de friction, mais bon, maintenant, il y a prescription.
Oui. Ça, vous savez, 20 ans, un tabassage ou un meurtre, on ne s'en rend plus trop compte maintenant. Mmh. Est-ce qu'il y avait un dispositif anticopie donc sur vos logiciels ?
Oui.
Mmh. Mais qui c'est qui l'avait conçu ?
Nous.
C'était nous.
On arrivait même à faire on essayait de faire des dispositifs anticopie sur les cassettes. Puisque les duplicateurs de cassettes, les systèmes à deux cassettes, ont des problèmes de passage de certaines bandes trop longues. Mmh. Et donc, on arrivait à détecter si la cassette était d'origine ou non, en fait.
D'accord.
Et après, une partie de notre travail, ça a été justement de vendre des systèmes de copie sur disquette ou sur cassette à d'autres éditeurs.
Parce que les éditeurs eux-mêmes n'avaient pas ce genre de procédé.
Ils connaissaient pas.
Mais en fait, les éditeurs, ils connaissaient pas les bécanes eux-mêmes ou quoi ?
Non.
C'était juste des commerciaux, distributeurs.
Oui. Non, ils connaissaient absolument pas les techniques. Même les, je me rappelle une anecdote d'un graphiste, on lui avait dit qu'il n'y avait que 16 couleurs, il pouvait utiliser 16 couleurs, mais il disait, non mais c'est pas possible, je veux 16 couleurs, j'en veux une de plus. Et on lui a fait croire qu'il y en avait 17, qu'on voulait pas donner la 17e. Non, faire des graphismes en 16 couleurs, c'était chaud. Hein, c'était, non, il y avait, les éditeurs ne connaissaient, avaient très très peu de connaissances de l'informatique, en fait. Mmh. Voilà.
À quelle étape de développement justement le dispositif anticopie, c'était en général suffisamment tôt ou c'était quelque chose que vous faisiez à la finalisation
Tout à fait à la fin, et souvent à l'arrache parce qu'on devait travailler sur des machines qu'on ne connaissait pas, donc on devait adapter le logiciel assez vite et après faire une protection dessus. Là, on n'était pas très bon. Voilà. Mais sur VIC-20, on a fait des très très bonnes protections avec les lecteurs disquettes, les 1540, on a fait des choses très très balèzes.
Pourtant, il y avait des dispositifs de protection sur d'autres types de jeux où il fallait avoir la boîte parce que ça permettait d'avancer dans l'histoire et tout ça. Ça vous a pas intéressé ce genre de...
Non, c'était trop compliqué. En fait, il y avait les systèmes de, par exemple, de protection de disquette où il y avait un trou dans la disquette et on repérait le trou. Nous, on faisait des
oui.
Des,
voilà. Oh punaise, oui.
On s'appelait Deadlock ou Simlock, je ne sais plus, faire un truc comme ça. Mais bon, nous, on faisait plus des systèmes logiques. Par exemple, sur les disquettes, on s'est branché pour synchroniser les pistes l'une par rapport à l'autre, de manière à ce qu'un logiciel de copie ne puisse pas retrouver ce système de synchronisation.
D'accord. Bon. Ok. Chaque jeu était vendu, mais quel était en fait le pourcentage qui vous était reversé à l'époque ?
Alors, si on parle en francs, alors un jeu était vendu 120 francs. Il y avait à peu près, bon, disons...
Ça fait environ 18 euros hein, pour les jeunes. Voilà.
Voilà. La TVA s'est fait tomber à 100 francs en gurtaxe. Sur ces 100 francs, 50% revenaient au distributeur et nous, on touchait 10 francs.
D'accord, donc c'était des jeux... Ah ouais, c'était entre 10%.
8, entre 8 et 10 francs.
Ça, donc, c'est à peu près ce qu'on reversait déjà à l'époque dans le livre.
À peu près, oui. Ouais.
Et du coup, ça, bon, je suppose que ça permettait quand même de vivre de ces jeux, sinon vous n'auriez pas trop continué.
Oui. Enfin, pour le 5e Max et Sapiens, oui, ça a bien marché. Ouais.
On a fait une émission avec l'association Silicium sur les ordinateurs Thomson qui sont restés cantonnés aux frontières nationales. Est-ce que vous avez réussi à vous exporter, notamment via les portages ?
Non. Non. On n'avait pas le niveau, je pense, international pour rentrer sur le marché américain. On a essayé plusieurs fois avec des sociétés américaines. Ça n'a jamais marché. Non.
D'accord. C'est pas ça, c'était pas une vous avez quand même tenté malgré tout.
Oui, on a tenté. Oui. Notre éditeur a essayé de revendre le logiciel aux Américains, ça n'a pas marché en fait. Je pense qu'on n'avait pas le niveau, c'est tout. C'est parce que nous, ça marchait bien en français, parce qu'on était, on travaillait en français et on était français, mais c'est tout. C'est pas, on n'avait pas le niveau pour entrer sur le marché américain.
CCPU. Avec Didier Guillon, donc, qui était à une certaine époque créateur de jeux sur ordinateur 8 bits, notamment la gamme Thomson. Didier, comment fut effectué le portage de vos jeux vers les autres plateformes, puisque donc vous êtes parti vers d'autres univers, d'autres marques, si je puis dire.
Oui, en fait, par exemple, pour le 5e Max, on l'a développé sur MO5 et après on l'a porté sur CPC464.
Amstrad,
oui. En fait, on a écrit un système de cross-développement qui était basé sur une communication par le port parallèle qui permettait de coder en Z80 sur le 6809 du MO5 pour ensuite l'envoyer sur le CPC464.
Donc, en fait, vous faisiez instruction par instruction, donc voilà. La table de correspondance avec le jeu d'instruction du Zilog, quoi.
Au début, oui. Voilà, c'est ça. Parce qu'en première passe, il y avait une conversion automatique du code. Et après, on testait, en fait, il y avait très peu d'outils de développement sur CPC464. Donc, on avait écrit nos propres outils de développement, mais sur MO5, en fait. Donc, on faisait du cross-développement.
Et après, ça devait être plus simple aussi pour faire le portage sur les autres ordinateurs, la marque Amstrad, par rapport au Thomson TO7.
Oui, enfin, la gamme Amstrad était très cohérente. Il n'y avait que le 464. Ce qui changeait, c'était les sélecteurs cassettes ou la capacité. Moi, la gamme était très cohérente. Mmh. Il y avait plus de problèmes, par exemple, de passer du MO5 au MO6 ou au TO7 de passer de CPC464 au 664. En fait.
Et il y a eu d'autres ordinateurs vers lesquels vous êtes allé, je ne sais pas, l'Apple 2
Non, l'Apple 2,
Commodore 64.
Commodore 64, oui, il y a eu un portage fait sur Commodore 64, oui. Mm-hmm. Oui. Après, on a travaillé sur Amiga, sur Atari ST. Le principal portage, par exemple, de Sapiens, a été fait sur Atari ST, puisqu'on a pu passer avec des vraies couleurs, une vraie musique numérique, etc. Mm-hmm.
Oui, pardon, Eugène.
Et est-ce que vous avez justement senti une difficulté du marché? Parce que finalement, avec plus les ordinateurs augmentaient, les supports changeaient, c'était de plus en plus facile de copier finalement. Ça s'est ressenti, vous, dans votre travail au quotidien? Et quel regard vous aviez sur toutes ces technologies où finalement, quand on achetait un Amiga, un Atari ST, on avait très peu de jeux achetés, on en avait une centaine et tous étaient quasiment des logiciels craqués, en fait, des jeux craqués.
Au niveau du piratage.
Ouais. Comment faisait un éditeur de jeux justement pour tenir? Parce qu'on voyait énormément d'éditeurs de jeux à l'époque, il y avait beaucoup de jeux qui sortaient. Et moi, je me demandais toujours, mais qui achète les jeux? Parce que c'est vrai qu'on les trouvait très rapidement copiables, en fait.
Oui, mais c'est un petit peu peut-être le problème du cinéma actuellement. Il y a des problèmes de streaming, de téléchargement illégal, c'était pareil. On essaie de se débrouiller déjà pour avoir des systèmes anti-copie. Et la plupart des éditeurs étaient se basés sur le fait que les jeux avaient une très très courte durée de vie. Mmh. C'était pas les utilitaires qui avaient des durées de 4, 5 ans ou 10 ans, c'était des jeux qui marchaient pendant Noël, 15 jours, 3 semaines. Donc
la durée de vie était encore plus courte que la plupart des jeux non grand business que l'on a actuellement.
Ouais, c'était assez court en fait. Donc en fait, le temps que le logiciel percole par des systèmes pirates, sachant qu'il n'y avait pas Internet, que tout se faisait par la poste ou on connaissait quelqu'un qui avait une disquette ou une cassette. Donc on se basait sur ça en fait, sur le premier mois de vente au niveau de décembre. Et après, on passait à notre logiciel.
Et du coup, donc, le portage, il était aussi fait pour la même période de Noël.
Ouais.
Donc, ça voulait dire que vous terminiez en septembre à la fois le jeu principal et ses portages?
Non, en fait, le portage, on le faisait après. C'est-à-dire, la promo démarrait en septembre,
d'accord,
quand le jeu était fixé. Et, là, rapidement, pendant un ou deux mois, on faisait les portages sur les autres machines, en fait.
Ok, et donc vous aviez déjà annoncé que vous alliez être présent sur telle plateforme avec le risque de ne pas arriver à temps.
C'est
quoi.
Ça, c'est ça. Le portage de 5e Max, par exemple, sur CPC464 a été fait en 5 semaines, je crois. Et là, c'était très très chaud.
Oui, parce qu'il y a quand même des optimisations techniques,
disons que on passait du 6809 au Z80 et le Zilog, c'est pas le pied quand même. Voilà. Et au niveau système d'adressage, registre, on était limité.
C'était plus facile de partir d'une machine limitée vers une plus complète, au final?
Oui, bien sûr.
Ou est-ce que c'était frustrant parce qu'il fallait retravailler graphisme, les sons
Ça n'a jamais été frustrant de redessiner des graphismes avec plus de couleurs et plus de précision. C'était toujours un plaisir, au contraire.
Et c'était quoi la machine la plus agréable, justement, pour vous ?
Oh, je dirais l'Amiga.
Ouais.
Amiga, c'est vraiment...
On est sur une 1632. il y a un bon de deux générations.
Même, même au niveau de tous les coprocesseurs, coprocesseurs graphiques, sonores. C'était...
Denis, Paula, que des filles magnifiques. Désolé. Est-ce que récemment, vous avez tenté de refaire un jeu ou un applicatif en touchant à tout ?
Non.
Non.
Non, non. On a sorti un jeu qui était un jeu d'Awale pour jouer. C'est un jeu africain.
Oui, oui. Un jeu de stratégie où on pousse des billes.
C'est ça. Ouais. Voilà. On n'a pas refait de jeu d'action. Non, on s'y est pas remis. Je pense que ça. Alors, nous, on a eu la chance de démarrer dans un système de Far West où il y avait tout été à faire. Et là, maintenant, ça devient. C'est un petit peu comme les frères Lumière qui faisaient leurs petits films dans leur coin. Là. Ouais, c'est super. Maintenant, c'est des productions avec 200 personnes pendant un an de travail. On est complètement dépassé.
Puisqu'on parlait tout à l'heure de la démo scène, des gens qui font des portages de jeux qui sortent maintenant sur des vieilles plateformes, etc., ça vous le suivez de temps à autre ? Ça vous intéresse encore ?
Ça m'intéresse, mais non, je ne le suis pas. Sincèrement, je ne le suis pas. Je dois avouer que je n'ai quasiment jamais joué à un jeu vidéo de ma vie. C'est un peu paradoxal, mais je n'aime pas ça. Donc, voilà. Donc, je ne m'intéresse pas tellement aux jeux vidéo. Tantôt, je regarde une vidéo YouTube, en particulier, on parlait tout à l'heure de Red Dead Redemption, parce qu'on m'a dit, va voir ça, c'est super. Et c'est vrai que j'étais bluffé par le graphisme. Et par la fluidité, par les profondeurs, le nombre d'objets en mouvement, c'est vraiment super.
Et on parlait tout à l'heure de la démo scène, ça vous intéresse pourquoi ? Parce qu'ils sont encore capables de faire des applicatifs en 64 kHz ?
Voilà, parce que c'est jouissif de voir qu'il y a des gens qui prennent la peine de se remettre à la situation où ils étaient à l'époque. Peu de moyens, petites machines, pas rapides, et qui font vraiment des choses vraiment super, avec très très peu de moyens en fait. Voilà.
Est-ce que justement maintenant que ces jeux sont plus ou moins passés, quelle est votre position vis-à-vis du concept d'abandonware, c'est-à-dire l'idée que des jeux commerciaux maintenant on peut les pirater, les jeux commerciaux d'il y a 20 ans, voire certains qui ont 10 ans, le fait de redistribuer gratuitement des jeux oubliés sans se poser la question des éditeurs, des ayants droit? On peut se fâcher, hein. Y a pas de problème, moi je n'ai aucune position.
Je prends un exemple, par exemple Sapiens, qui est un de nos logiciels phares, on a fêté 30 ans l'an dernier, on l'a passé en open source en fait.
D'accord, l'an dernier donc voilà. Il est disponible et on peut essayer de le porter en dehors de l'émulateur.
Oui, il y a quelqu'un qui veut le porter sur un Apple 2GS, sur Apple.
Ah ouais.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas ? Enfin, Apple 2GS, déjà, c'est un peu cheaté. Hein. Apple 2E, là, il aura mon respect.
Oui, c'est sûr.
On a parlé tout à l'heure de Myriad. Comme on a du temps, du coup, parler un petit peu des productions que vous faites vis-à-vis de votre entreprise. Est-ce que l'expérience que vous avez eue vis-à-vis de ces logiciels, elle vous a servi ou finalement, non, on est passé à autre chose, on a le luxe d'avoir de la RAM et tout ça ?
Si, énormément, parce qu'en fait... Comment on écrivait nous-mêmes nos propres interpréteurs de musique et éditeurs de musique, on s'est retrouvé avec des petits kits en fait qu'on a voulu éditer, partager. Donc c'est ce qui nous a permis de sortir nos propres logiciels d'édition de musique en fait. Donc à la base c'est des outils qu'on s'était créés de manière interne et qu'on a commercialisé. Et maintenant ça fait bon paquet de temps qu'on les fait évoluer tout d'année en année. En fait.
Et qu'est-ce que vous avez actuellement comme applicatif ? C'est commercialisé ? C'est disponible ?
On le vend sur nos propres boutiques. On a par exemple un logiciel qui permet de récupérer un fichier PDF musical et de le jouer.
Connaissant la complexité du PDF, c'est parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Oui, de l'image scannée ou du vrai vectoriel ?
Non, on ne traite que le vectoriel. Vectoriel. En fait, ça permet de faire des passerelles entre des vieux logiciels comme Mosaic et récupérer des musiques. On travaille par exemple avec des compositeurs d'Hollywood qui ont créé leur propre musique sur Mosaic, qui est obsolète. Et leur seule façon de communiquer maintenant avec le logiciel actuel, c'est de sortir un PDF et de récupérer le PDF avec notre logiciel.
Parce qu'il n'y a aucun autre logiciel qui peut ouvrir le format Mosaic actuellement, quoi.
Non. Non, ce serait peut-être plus simple de le faire, mais non, ils préfèrent passer par le PDF. Actuellement, nous sommes les seuls à pouvoir prendre un PDF et à le jouer.
Waouh. Donc de l'OCR à partir de notes musicales.
C'est ça.
Sachant la complexité que peut être la notation musicale, c'est absolument énorme, quoi. Et outre donc ce logiciel qui fait la musique de PDF, je trouve ça génial, quoi. Quels sont en fait les différents types d'utilitaires que vous faites à côté ?
On a des utilitaires de création musicale, base de solfège, en fait, pas des. C'est on rentre les notes et on les joue, voilà. On a des modules de chant en différentes langues, finlandais, latin, français, allemand, etc.
Ok, donc c'est plutôt dans ce cas-là de l'enseignement musical.
C'est utilisé beaucoup par les chorales. Mmh. On travaille beaucoup avec les chorales. Qui se servent de nos logiciels pour transposer, masquer des voix, faire chanter, comprendre la prononciation, des choses comme ça.
Et pour le coup, là, par contre, vous travaillez avec des gens dans votre entreprise. Vous avez des demandes d'utilisateurs ou vous concevez de votre côté en estimant
le besoin ? Nous, on fédère, en fait. Si quelqu'un arrive avec une bonne idée et dit « moi, j'aimerais faire ça avec le logiciel », bon, on essaie de comprendre sa demande et on l'implémente. Mm-hmm. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des experts en musique, donc on se base beaucoup sur ce que les autres peuvent nous apprendre.
Mm-hmm. Ok.
J'apprends le code.
Et après, vous avez une idée, une estimation de votre base utilisateur actuelle ?
Je dirais 80 000.
Quand même. Et pas tous francophones
50-50. 50 à l'étranger, 50 français.
D'accord. En fait. Et dans ce cas-là, comment on fait ? On traduit donc français vers anglais ça suffit ?
Pour faire des versions, ouais. Bien, on demande à nos utilisateurs de mettre la main à la pâte. On fédère, en fait. On dit, vous voulez une version en tchécoslovaque ? Ok, on vous donne les textes, faites-la.
Voilà. Okay.
Nos licences sont à vie, donc les gens ont tout intérêt à ce que le logiciel perdure, en fait.
Oui, ok. Est-ce que, du coup, à partir de ces logiciels, ça vous intéresserait justement de retravailler les anciennes partitions, des anciens jeux, de les retravailler avec leurs créateurs
C'est-à-dire
justement toutes les musiques des jeux qui ont fait les années 80, de participer à leur portage, de le retravailler musicalement.
Je pense qu'il y a des gens qui font ça sur Internet, qui récupèrent des anciennes musiques et qui les regroupent et qui les classent. Oui, je pense que ça existe. Nous, non, c'est pas notre domaine, en fait.
Actuellement, donc, dans Myriad, il y a combien de personnes ?
Nous sommes deux.
Deux ? Ok, donc vous et votre frère.
Voilà.
Ouais. Du coup, vous êtes resté ce côté fusionnel.
Voilà.
Est-ce qu'au moins, il y a deux ordinateurs différents ? Vous n'avez plus à faire les 3-8 ?
Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, je travaille sur Macintosh et mon frère travaille sous Windows, en fait, sur PC et Linux. Moi, je suis resté sur Macintosh.
Et vous lorgnez sur l'ordinateur de votre frère ?
Non, non, j'ai aussi un... Non, je travaille un peu sous Windows, non, je préfère encore rester sur Mac OS.
D'accord. On a parlé effectivement de tous ces jeux et tout ça. Je sais que vous nous avez dit que vous n'étiez pas trop joueur, mais est-ce qu'il y a des personnes dans les années 80 dont vous admiriez le travail pour une raison X ou Y ?
Oui, il y a des certains jeux nous ont marqué. On n'y jouait pas, mais on les voyait, en fait. Marc Setchi, qui avait fait Omega Planète Invisible, qui avait fait également Mandragore. C'est très sympathique. J'ai travaillé avec lui, d'ailleurs, sur les protections de Mandragore. Oui, il y a eu des jeux... La série Ultima.
C'était Lord English.
Voilà.
Qui était derrière, ouais.
Star Glider sur Atari ST avec les vecteurs. Brain Bird qui est sorti ça. Il y avait
Et après ils ont fait Artifox et tout ça, donc sur le même principe. Hallucinant pour l'époque quand même de faire des jeux 3D.
C'est le genre de jeu qui nous avait vachement impressionné. De mémoire. J'ai un peu joué à... J'aimais bien Flight Simulator. Ça, c'était vraiment sympa. Ouais.
Très, très bien conçu. Sur un nombre de plateformes absolument hallucinant, d'ailleurs. Puisqu'il y a tout eu, je crois. Ils ont même fait un portage sur Apple II, sur Commodore 64.
Ça ne m'étonne pas. C'est des dieux de l'optimisation du code.
Et c'est Microsoft. Oui, je sais, ça peut surprendre. Ultime question, puisque vous êtes venu avec votre fils, comment il juge votre boulot de l'époque ? C'est pour lui, c'est démodé, ou bien il a osé relancer une bécane de l'époque pour tenter d'y jouer ?
Je crois qu'il s'en moque complètement.
Et il fait non, c'est le premier du mois, il va avoir mon argent de poche.
Mais c'est son droit. Hein, c'est... Il aura pas son scooter, c'est tout.
Pas de suite. Ah d'accord. Ok. Didier Guillon, merci beaucoup d'être venu pour parler justement de cette époque révolue quand on était artisan logiciel en chambre. Et on vous souhaite une très bonne continuation. En tout cas, merci infiniment.
Merci à vous.